Cette année, GMF est élu numéro 1 de la relation client dans le secteur assurance. C'est aussi ça, être assurément humain. Et en ce moment, profitez de 2 mois offerts pour toute souscription de contrat auto jusqu'au 30 juin. GMF, assurément humain. Enquête 2026, Bearing Point et Kantar, conditions de l'offre sur gmf.fr.
Marine Tondelier, François Ruffin, le faux prêtre d'M6 qui aurait confessé Dupont Ligonnès et le loup de la pub Intermarché. Si j'étais Spielberg, j'attaquerais Olivier Faure pour plagiat. Son projet pour 2027 est totalement pompé sur le nouveau film de Steven, Disclosure Day, dans lequel certains personnages parlent une langue qu'eux seuls comprennent et qui pose cette question: sommes-nous seuls ou non? Et si quelqu'un sait que nous ne le sommes pas, pourquoi ne nous l'avons jamais dit? Nous l'a-t-on jamais dit? Enfin bon, remettez les mots dans l'ordre. Un dirigeant socialiste n'aurait pas dit mieux. Allez Olivier, téléphone, raison.
Merci Bertrand Chameroy, vous écoutez la grande matinale d'Inter, il est 8h. L'heure du grand journal d'Hélène Philly. Bonjour.
Bonjour. Pour en finir avec le cadmium, les députés ont voté hier soir pour réduire les taux autorisés avec un calendrier plus rapide que celui prévu par le gouvernement. La France est le pays le plus contaminé d'Europe. Un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban conclu cette nuit, mais sera-t-il plus appliqué que le dernier? Nous serons à Jérusalem et en Iran, où la population ne voit ni l'issue de la guerre, ni l'amélioration de son quotidien. La une, c'est aussi la colère des associations de protection de l'enfance face au lourd passé du principal suspect de la disparition de Liana dans le Gers. Un duel russo-ukrainien en demi-finale à Roland-Garros. Et puis le périple de la tapisserie de Bayeux se précise. Transport vers Londres cet été dans un dispositif de double caisse en lévitation pour amortir les chocs.
À 8h20, comprendre le monde d'aujourd'hui, celui des nouveaux prédateurs, avec Gilles Gressani et Ramona Bloge, deux fondateurs de la revue Le Grand Continent. Chine, États-Unis, intelligence artificielle, tour d'horizon, capital pour résister à l'ennemi qui nous désigne. C'est le titre de leur dernière publication. Venez participer à la conversation au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France.
France Inter. Les sols français sont contaminés au cadmium plus qu'aucun autre pays européen. Ce métal toxique, cancérogène, utilisé dans les engrais phosphatés, devenu enjeu de santé publique. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Les députés ont voté hier un texte bien plus ambitieux que ce que prévoit le gouvernement pour réduire les taux de cadmium dans les fertilisants.
Oui, parce que le gouvernement reconnaît qu'il faut limiter la quantité de cadmium contenu dans ces engrais. Nous les importons notamment massivement du Maroc. Les roches utilisées pour les fabriquer y sont naturellement riches de ce métal lourd. Mais il est possible de le retirer, un procédé dit de décadmiation. Le texte voté hier prévoit donc d'abaisser le seuil de cadmium de 90 mg par kilo actuellement à 20 dès 2030. Le gouvernement, lui, voulait aller moins vite. Question de compétitivité pour notre agriculture, défend-il. Son projet de décret prévoit aussi d'abaisser le taux de cadmium à 20 mg, mais quasiment 10 ans plus tard, en 2039. Le député écologiste Benoît Biteau s'est félicité hier de ce vote pour une diminution plus rapide.
Le gouvernement a l'ambition d'une trajectoire avec un décret pour sortir du cadmium. Je l'invite, à la lumière du texte qui a été voté ce soir, à modifier la trajectoire et à respecter la position de la représentation nationale.
Sa proposition de loi a emporté l'adhésion des députés de gauche et du bloc central. Le RN a voté contre.
Et les députés se sont appuyés sur ce que dit la science, Rémi.
Oui, parce que limiter le taux de cadmium à 20 mg par kilo d'engrais, c'est la préconisation des experts de l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire. Dans leur rapport du mois de mars, les techniques existent et le surcoût pour les agriculteurs est marginale selon eux. L'inaction, en revanche, serait très coûteuse, disent-ils. Rien que la prise en charge de l'ostéoporose chez les femmes, favorisée par l'exposition au cadmium, coûtera jusqu'à 2,6 milliards d'euros par an à l'horizon 2040, si rien n'est fait.
Rémi Brancato, spécialiste environnement à la rédaction de France Inter. Alors que les personnes jugées à risque particulièrement exposées pourront se faire dépister gratuitement à partir du 16 juin, décret publié hier au journal officiel. Préserver l'environnement et l'agriculture. C'est au nom de ce principe qu'Édouard Philippe, candidat déclaré à la présidentielle, dit vouloir modifier la charte de l'environnement. C'est sur la base de ce texte que le Conseil constitutionnel a censuré la réintroduction de l'acétamipride de l'été dernier, la disposition la plus contestée de la loi Duplomb. Édouard Édouard Philippe s'affiche, lui, aux côtés des agriculteurs, dont il compare la crise à celle de la sidérurgie dans les années 70. Il était hier sur les terres du poulet de Bresse dans l'Ain, pour de bon en campagne, Julien Nenny.
Alors, même certains de ses proches le disent trop sérieux, bonjour. Trop techno, trop raide.
Bonjour monsieur.
Bonjour. Ça va bien ?
Bonjour madame.
Alors pour son premier déplacement un peu ouvert à la presse, Édouard Philippe a voulu jouer avec les symboles. En commençant par le nec plus ultra du poulet en France.
Donc là on voit le chapon de Bresse, hein, les pattes bleues, le plumage blanc. Et la crête un petit peu rouge.
L'emblématique volaille de Bresse, Cyril Dégluère, patte de poulet dessinée sur les baskets, en élève 10 000 par an ici, près de Mâcon.
Ah, c'est des belles bêtes.
Ouais.
Et Édouard Philippe ne l'a pas tout à fait choisi au hasard. Il est devenu le fournisseur de poulet attitré des dîners d'État à l'Élysée, autre symbole.
Mal.
Comme ce menu ce jour-là pour le roi des Belges.
14 octobre 2024. Poularde de Bresse au cèpe.
C'est bon ça.
Forcément, ça donne des idées.
Quand c'est bon, ça fait toujours saliver.
Le message du jour est passé. Édouard Philippe est en campagne pour de bon.
Alors, on vous suit.
Faudrait-il y voir une réponse à l'entrée en campagne, déjà sur des terres agricoles d'un certain Gabriel Attal ? Officiellement, pas du tout.
Moi, je ne suis pas en confrontation avec d'autres candidats de ce que l'on appelle parfois le bloc central. Vous ne me voyez pas critiquer ni leurs personnes, ni leurs idées. Je suis là pour exposer les miennes. Et c'est très bien.
Mais hors micro, son entourage assume. Édouard préfère aller dans l'Ain pour une immersion avec les gens plutôt que les esbrouves d'une estrade et d'une botte de foin. Référence directe à Gabriel Attal. Entre ces deux-là, on est encore à fleur et moucheté. Mais la bataille du bloc central est bel et bien lancée.
France Inter, sur le terrain, signé Julien Nenny. Et voici un projet que le haut commissaire au plan, Clément Beaune, veut mettre dans le débat de la présidentielle. Tellement structurant qu'il mérite un choix, un débat national, dit-il. Projet d'une capitale entièrement redessinée, Paris et sa banlieue. En faisant sauter la frontière symbolique du périphérique, l'idée serait de supprimer les départements franciliens et de regrouper quelques 130 communes pour créer une méga-ville de plus de 7 millions d'habitants. L'organisation administrative ne correspond plus aux réalités des territoires, juge Clément Beaune. La justice est donc mise en cause dans le Gers. Comment le principal suspect de la disparition de Liana a-t-il pu ne jamais être inquiété, malgré 5 enquêtes ou signalements pour viol ou comportements inappropriés sur des fillettes ? Une enquête administrative est désormais ouverte pour identifier d'éventuels dysfonctionnements, mais ça ne calme pas l'avocat de l'association Enfance en danger, Maître Jean Sagnier.
Je suis en colère et je ne vais pas tempérer mes propos pour ne froisser personne. Parce que pendant le temps qu'on tempère ses propos, pendant le temps qu'on nuance, pendant le temps qu'on attend le prochain rapport, et on vient de nous en parler, un rapport des services de la gendarmerie, de l'inspection de la justice, pendant le temps qu'on tempère, pendant le temps qu'un prochain rapport va arriver à la prochaine commission, eh bien, il y a quelque part encore un homme, quelque part, dont le casier est vierge, et qui a autour de lui des enfants.
Hier, une nouvelle famille est venue dénoncer des comportements inappropriés de ce père de famille lors d'une soirée pyjama et porter plainte. La procureure d'Auch a, elle, précisé que toutes les procédures allaient désormais être regroupées. Ça doit être une priorité pour Manon Lefebvre, la secrétaire nationale du syndicat de la magistrature et substitut du procureur.
Ces dossiers-là, on les traite tous les jours dans nos parquets, c'est-à-dire des profils où on a plusieurs plaintes, des plaintes en plus qui sont réparties sur différents endroits du territoire, parce que parfois c'est des profils qui bougent aussi une fois un peu repérés. Et après, il y a une réalité de temps de gestion de cette procédure et de transmission des informations entre l'éducation nationale, les services sociaux, les services enquêteurs, évidemment l'autorité judiciaire, et qu'en réalité, le délai de traitement de la procédure, il n'est pas si surprenant que ça au vu de ce que nous devons traiter chaque jour. Le problème, c'est que les violences sexuelles sur les mineurs ne sont pas considérées comme un contentieux de masse. Or, c'est des centaines de milliers d'enfants qui, chaque année, sont victimes de violences sexuelles.
Manon Lefebvre, secrétaire nationale du syndicat de la magistrature, avec Julien Langlais. La jeune Liana reste introuvable. À Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, une femme de 25 ans a été retrouvée morte chez elle, tuée de 58 coups de couteau. Son compagnon, mis en examen, est placé en détention provisoire. Et direction Marseille, à présent, où pour encourager la mixité des classes d'écoles de différents quartiers sont jumelées. C'est le programme éducatif Le Grand Bain, qui est expérimenté depuis 4 ans maintenant, pour que les enfants des quartiers aisés et des quartiers populaires se rencontrent, fassent des activités ensemble. 1300 élèves participent cette année. Mathilde Vinceneux a pu en rencontrer certains.
Pendant toute l'année scolaire, une classe du 2e arrondissement de Marseille, un quartier populaire, a été jumelée à une classe du 8e arrondissement, l'un des plus chics de la ville. Kétiona, 10 ans.
On a commencé à s'envoyer des lettres. Eux, ils sont venus de notre école pour visiter notre quartier. Et nous, on est partis dans leur quartier pour visiter.
Au cours de ces visites, Ritej, 9 ans, a bien remarqué que le quartier de Kétiona ne ressemblait pas tout à fait au sien.
Il y avait des bâtiments, ils étaient très jolis comparé à les nôtres. Ils sont un peu délabrés.
Faire découvrir aux enfants des réalités sociales différentes et créer de la cohésion, c'est tout l'enjeu du jumelage, explique Marion Chapulu, directrice de l'association Citizen Corps, qui a créé le programme du Grand Bain.
Et ces enfants se croiseraient sinon jamais, ils n'ont pas du tout la même vie.
Mais pas facile pour les élèves de faire face à ce qui les sépare, argent, religion, couleur de peau, niveau scolaire aussi, Marion Chapulu.
Les enfants d'une école de quartier favorisé avaient un peu pris en grippe, ou en tout cas mal interprété les courriers de leurs petits camarades qui avaient beaucoup de fautes d'orthographe. Et pour eux, ça voulait dire qu'en fait, les enfants n'étaient pas intéressés.
Malgré ces préjugés, des amitiés sont nées. Kétiona espère bien rester copine avec Ritej.
Peut-être que je pourrais aller la voir ou que nos parents pourront changer les numéros.
Cette année, à Marseille, 35 écoles publiques et privées ont participé à ce programme de jumelage.
Reportage signé Mathilde Vinceneux à Marseille. Ce rappel, c'est le dernier jour pour déclarer vos revenus. Date butoir pour les derniers départements concernés. Vous avez jusqu'à minuit.
8h11 sur Inter et un nouveau cessez-le-feu entre le Liban et Israël.
Conclu cette nuit après 2 jours de discussion à Washington. Accord conditionné à l'arrêt complet des tirs du Hezbollah, la milice pro-iranienne qui ne participe pas au pourparlers. Quel crédit donner à cette nouvelle tentative alors que le cessez-le-feu déjà en vigueur est quotidiennement bafoué? Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour.
Depuis Jérusalem, cette fois Thibault, le cadre est différent.
C'est en effet la première fois depuis la reprise de la guerre le 2 mars dernier que le Liban et Israël conviennent d'un cessez-le-feu total et plus seulement sur une période de temps limitée. En revanche, cet arrêt des hostilités est conditionné au retrait du Hezbollah du sud du pays, en partie occupé par les troupes israéliennes. Et c'est seulement à ce moment-là que des zones test dans cette même région contrôlée par une armée libanaise soutenue financièrement par les États-Unis seront mises en place. C'est donc un plan de retrait très progressif de l'armée israélienne qui est sur la table. Beaucoup de prudence évidemment ce matin parce que le Hezbollah n'a pas réagi à un accord qui lui est imposé et qu'Israël garde le doigt sur la gâchette. Mais cependant, un motif d'espoir. Un cessez-le-feu total était une exigence iranienne dans le cadre de négociations parallèles avec les États-Unis. Et il est probable que l'avancée de la nuit ouvre la voie à des discussions plus constructives entre Washington et Téhéran.
Thibault Lefèvre depuis Jérusalem. L'Iran qui ne fait encore état d'aucun progrès tangible dans ces négociations. Les deux pays se sont affrontés dans le Golfe hier. Le Koweït et son aéroport frappé. Un mort, 63 blessés. Une guerre et des enjeux très éloignés aujourd'hui de ce qu'était la promesse initiale de Donald Trump. Débarrasser le pays de son régime répressif. Les Iraniens racontent un quotidien toujours plus difficile et des espoirs déçus, comme cette habitante de la province d'Ispahan qui a accepté de répondre anonymement à Marie Mollet.
Chirine, tout juste 18 ans, vient de passer le concours national pour rentrer à l'université près d'Ispahan. Et elle raconte d'abord la crise économique, la vie chère, les prix qui flambent, inflation annuelle à près de 54% en Iran.
Les prix ont vraiment augmenté de façon vertigineuse. Tout coûte tellement cher qu'on risque bientôt de manquer, même de pain. Même pour mon père, c'est difficile de gérer la vie quotidienne. Tout le monde doit trouver un travail, même les enfants, même moi.
Et puis il y a les espoirs déçus. Au début de la guerre, Shirin avait cru les promesses de Donald Trump sur un changement de régime. 3 mois plus tard, les négociations de paix patinent et dit-elle, tout est pire.
Aujourd'hui, on parle d'accord. Cet accord n'a absolument rien de bon pour le peuple iranien, sauf pour le gouvernement lui-même et ses bénéficiaires. Nous ne voulions pas la guerre pour elle-même. Nous voulions un changement de régime. Mais malheureusement, ça ne s'est pas produit.
Et elle témoigne de la répression, les exécutions qui se sont poursuivies après les massacres de janvier.
Ils sévissent encore plus maintenant. Chaque jour, dans les rues, ils tuent encore nos enfants. Des gens à qui on colle de fausses accusations. Vraiment, je ne sais pas pourquoi Trump voit ces choses et ne fait rien à part tweeter.
Et dit-elle, l'emprise des gardiens de la Révolution s'est encore renforcée sur tout le pays.
Marie Mollet à l'étranger. Encore Cuba, toujours plus asphyxié par les sanctions américaines. Les paiements par carte Visa et Mastercard sont désormais impossibles en raison du retrait de la banque étrangère qui gère les opérations sur l'île. Et c'est une rencontre particulière qui se tiendra aujourd'hui sur le central de Roland-Garros. Alors que l'Ukraine résiste aux assauts russes depuis 4 ans et demi maintenant, la première demi-finale du tournoi opposera la Russe Mira Andreeva à l'Ukrainienne Marta Kostyuk, qui porte en elle bien plus que des ambitions personnelles, Fabrice Abgral.
Chaque conférence de presse de Marta Kostyuk est disponible pour être diffusée dans le monde entier. L'Ukrainienne le sait et elle s'en sert comme tribune médiatique pour devenir la porte-parole de son pays et s'affirmer comme une militante engagée contre la guerre.
Je suis ravie de représenter l'Ukraine. Avec tout ce qui se passe, le fait d'être ici, c'est vraiment une bénédiction. Je ne pense pas à remporter le titre, ce n'est pas la chose la plus importante. Je suis là pour représenter l'Ukraine et me faire plaisir.
Et personne n'empêchera Marta Kostyuk de parler.
Ici, je suis en sécurité. Je joue au tennis, il faut que je sépare les choses. Le seul moment que je peux contrôler, c'est de m'asseoir devant la presse, de vous en parler et de donner de la visibilité à ce qui se passe pour tous ces gens qui souffrent dans leur vie.
Ce qui désole le plus Marta Kostyuk, c'est le silence des joueuses russes. Aucune d'entre elles ne s'exprime sur la guerre.
J'aimerais des prises de position plus franches sur ce qu'il se passe, surtout quand c'est ton pays qui tue des gens. Comment peux-tu dormir la nuit quand tu sais ce qui arrive et que tu ne dis rien?
À l'issue du match, Marta Kostyuk ne serra pas la main de Mira Andreeva. C'est en fait l'attitude de tous les Ukrainiens sur le court à chaque fois qu'ils rencontrent des Russes depuis le déclenchement de la guerre en février 2022.
Le sport, c'est aussi le basket. Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama cal au premier match de la finale NBA face au New York Knicks. La finale se gagne au meilleur des 7 matchs. Et puis le football, les Bleus sur le terrain de la Beaujoire à Nantes ce soir. Match préparatoire au Mondial face à la Côte d'Ivoire. Prêter ou ne pas prêter, ce n'est plus la question pour la tapisserie de Bayeux. Mais dans quelles conditions envoyer ce chef-d'œuvre à nos amis britanniques? 70 mètres de toile brodée, vieille de près de 1000 ans. La question occupe historiens et experts depuis des mois maintenant.
Et quelle épopée!
Elle sera transportée. On le c'est désormais dans une cage en aluminium sur mesure, Victor Vasseur.
C'est un bijou technologique. Il y a d'abord cette boîte noire qui va servir de valise, où le trésor sera précieusement rangé comme un millefeuille. Un coffre-fort posé sur des ressorts pour absorber les vibrations et amortir les chocs lors du voyage. Le trajet vers Londres est préparé depuis plusieurs mois avec deux voyages à blanc, étudiés dans les moindres détails, explique Delphine Christophe, directrice générale du patrimoine et de l'architecture au ministère de la Culture.
Nous avons absolument tout mesuré. Chaque petite irrégularité de la route a été notée avec l'heure exacte pour pouvoir retrouver après sur les relevés des capteurs en fait ce qui s'était passé à ce moment-là.
Un transport périlleux pour ce trésor de 70 mètres de long qui pèse 350 kilos. Et un voyage inédit pour le transporteur d'œuvres d'art Ischia. Lucie Delhomme est la responsable musée au sein de la société de transport.
L'œuvre, on la connaît très fragile et c'est pour ça que la caisse a été faite sur mesure pour l'œuvre, testée pour cet itinéraire, ce qui ne se fait jamais puisqu'on a déjà travaillé sur des œuvres très très fragiles, avec des caisses qui ont été faites spécialement pour ces œuvres. Nous n'avons jamais eu l'opportunité de tester les itinéraires, et c'est ça qui est vraiment innovant.
La tapisserie de Bayeux sera exposée à partir du mois de septembre au British Museum pendant moins d'un an. La date de son transport, prévue cet été, demeure secrète pour des raisons de sécurité.
Une tapisserie qu'on ne pourra admirer qu'à plat au British Museum. Tout est extraordinaire dans cette histoire. Ça, aussi inespéré que miraculeux, je voulais vous donner cette dernière information d'un guide népalais qui a disparu il y a 6 jours sur les pentes du plus haut sommet du monde, oui. Et qui a été retrouvé vivant ce matin. Il rampait vers le camp de base.
Incroyable.
Il a été repéré par un groupe de personnes qui récupèrent tous les déchets amassés par les alpinistes qui sont de plus en plus nombreux à grimper ce sommet. 1 000 000 au total cette année.
C'est un survivant. Merci Hélène Philly. Voici la météo.
La météo avec CNP Assurance. Jour après jour avec CNP Assurance. Assurons un monde plus ouvert.
Marie-Pierre Planchon, on ne lâche pas le parapluie aujourd'hui. Non.
Surtout dès ce matin, on peut même parler de brouillasse, hein, comme on a actuellement sur Paris, car on a un front froid qui a rejoint dans la nuit le front chaud encore présent. Et ça crée de nouveau de l'instabilité qu'on retrouve sur les trois quarts du pays, à l'exception de la Méditerranée où le soleil résiste. Et ces pluies sont plus soutenues aussi ce matin, attention, du sud-ouest au Massif central. Cette nouvelle situation donne des petites pluies et du vent de la Bretagne à la frontière belge, mais aussi des orages ce matin des Côtes d'Armor à la Côte d'Opale. Ailleurs, c'est très chargé avec des averses ou des valeurs assez 12, 14 à Arras, 15 à Paris, 16 à Angoulême comme à Lons, le Saunier, mais 9 sur le massif du Sancy.
Et les pluies vont petit à petit traverser le pays.
Exactement, et on va les retrouver, ces pluies soutenues des Pyrénées à la façade est, de l'Alsace aux Alpes du Nord, donnant donc un ressenti automnal avec de bons cumuls prévus par Météo France sur l'ouest du massif central et en Rhône-Alpes avec des chutes de neige encore à 2000 mètres. Ces pluies s'étendront ensuite vers le golfe du Lion puis la région PACA en fin de journée, donnant même un risque orageux sur l'est des Pyrénées. La Corse va bénéficier du soleil et sur le reste du pays, on va avoir un ciel de traîne qui se mettra en place au fil des heures entre éclaircies et orages de l'Île-de-France aux Ardennes sous des valeurs situées en dessous des normales de saison, 4 à 7, pas plus de 13 à la Chaise-Dieu, 15 à Besançon, 16 à Lyon, 17 à Toulouse comme à Rouen, 18 à Lille comme à Tarn, dans le Tarn à Cordes-sur-Ciel, vous aurez 20 à Paris, mais aussi 27 à Bastia et encore 28 à Nîmes en se rappelant René Char, au plus fort de l'orage. Il y a toujours un oiseau pour nous rassurer. C'est l'oiseau inconnu. Il chante avant de s'envoler.
Merci Marie-Pierre. C'était très beau. Merci. Place à Pierre Aski, géopolitique.
La grande matinale. Listen anywhere. Huawei Doba. Washdahu Missouria. Sur France Inter.
Pierre, vous vous interrogez sur les difficultés croissantes de Vladimir Poutine.
Le forum de Saint-Pétersbourg est la réponse russe au forum économique de Davos en Suisse. C'est l'enfant chéri de Vladimir Poutine, où il invitait autrefois le gratin de la politique et du business occidentaux. Hier, pour l'ouverture du forum, l'Ukraine s'est rappelée à son souvenir. Un drone s'est écrasé sur une raffinerie de la ville et a provoqué un incendie. Une immense colonne de fumée noire dans le ciel, symbole de l'arrivée de la guerre dans le fief de Poutine, pourtant situé à 1000 km de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a revendiqué l'attaque, ainsi que d'autres frappes sur des sites industriels en Russie et en Crimée occupée. C'était une manière de répondre aux attaques très brutales de missiles et de drones russes sur les villes ukrainiennes la veille, faisant 22 morts. L'Ukraine encaisse des coups durs, mais elle est aussi capable d'en donner. Cette incapacité de la défense aérienne russe à bloquer les incursions de drones ukrainiens n'est pas la seule menace, au point qu'il faut bien se poser la question, Vladimir Poutine est-il en train de perdre la guerre ?
Alors ça, c'est presque une première. Pierre, qu'est-ce qui permet de se poser cette question ?
Alors, notons d'abord que le simple fait de s'interroger montre un sacré retournement de situation. Il y a un an, on spéculait plutôt sur un possible effondrement de l'armée ukrainienne sous la poussée russe. Sur le terrain militaire, la Russie n'avance plus. Dans certaines positions, elle recule. Mais c'est surtout en Russie même que surgissent les sujets d'inquiétude. Économique, politique, morale de la population, et même la grande paranoïa de Poutine, dont les apparitions sont entourées de mesures de précaution renforcées. Le coût de la guerre est d'abord humain. 500 000 morts russes en plus de 4 ans d'opérations militaires spéciales. C'est considérable si l'on considère la disproportion des moyens initiaux entre les deux pays. Tout ça pour ne même pas contrôler le Donbass. Un article dans une revue officielle indique pour la première fois que l'objectif de changer de régime à Kiev est inatteignable et qu'une paix négociée serait dans l'intérêt de la Russie.
Est-ce que Poutine peut changer d'avis avec ça ?
Alors, le président russe ne donne aucun signe de vouloir changer de cap, Florence. On le dit même obsédé par les opérations militaires au détriment des autres sujets. Mais les clignotants se multiplient. Le coût astronomique de la guerre n'est pas compensé par les gains dus à la hausse du prix du pétrole. La popularité de Poutine serait en baisse et la grogne transparaît malgré les restrictions d'Internet. Le système russe est suffisamment verrouillé pour éviter une crise tant que le sommet de l'appareil d'État, politique, sécuritaire, militaire, évite les craquements et les divisions. Mais la question est posée, combien de temps la Russie est-elle prête à sacrifier sa jeunesse et son économie pour une guerre qui se révèle chaque jour, ingagnable militairement et difficile à arrêter sans signer une défaite ? Une puissance militaire peut-elle perdre une guerre ? pas forcément militairement, mais Mikhail Gorbatchev avait retiré les troupes soviétiques d'Afghanistan en 1988, car il avait compris que cette guerre était devenue un cancer dans la société. Poutine est confronté au même dilemme, pas sûr qu'il ait la lucidité d'en tirer la même conclusion.
Merci Pierre Aski. On continue à parler géopolitique dans un instant avec nos invités Gilles Gressani et Ramona Bloge.
15h, Fabrice Drouel.
Ce jeudi, je vous raconte la tentative de meurtre contre Monica Seles, la numéro 1 mondiale du tennis, attaquée au couteau en avril 93, en plein tournoi à Hambourg, devant 7000 personnes.
Affaire sensible, tous les jours à 15h sur France Inter.
Le CIC présente, chronique entrepreneuriale.
Chef d'entreprise, je peux t'aider à prendre le lead sur le recrutement des best talents du marché avec un happiness management premium qui insufflera un esprit d'équipe ultra positif et efficient qui boostera l'appétence de tes employés pour leur job. Même nul.
Sinon, au CIC, on propose des solutions concrètes pour faciliter le recrutement des entreprises et la fidélisation de leurs employés. Par exemple, une offre de prévoyance et de santé collective qui les aide à faire face aux aléas de la vie.
C'est ça, construire pour que le monde bouge. CIC. Contrat de ACMIA RDSA et ACMVSA, entreprise régie par le Code des assurances, conditions en agence et sur CIC.fr.
Il y a promo et promo des jours Picarino.
Et là, on se parle pas de promo qui vous fait acheter n'importe quoi. On se parle d'une ratatouille cuisinée bio. Des tomates, des courgettes, des aubergines. Bref, de quoi faire le plein de légumes sans vous vider les poches.
Jusqu'au 14 juin, vos produits préférés sont à moins 30% avec la carte Picarenou. Comme les 600 grammes de ratatouille cuisinée bio à 3,15€ au lieu de 4,50€, soit 5,25€ le kilo. Jamais pareil, toujours Picard. Modalité sur picard.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
8h25.
France Inter, Benjamin Duhamel, Florence Paracuelos. La grande matinale.
Face à la toute-puissance chinoise et au seigneur américain de la tech, l'Europe est-elle définitivement dépassée? Comment résister aux assauts des nouveaux prédateurs dans le domaine du numérique et en particulier de l'intelligence artificielle? Questions existentielles au cœur du cinquième volume de la revue du Grand Continent. Son titre, l'ennemi qui nous désigne, apprendre à résister aux prédateurs. Et avec nous, Benjamin, deux des fondateurs du Grand Continent.
Bonjour Gilles Gressani.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Inter. Vous êtes donc directeur du Grand Continent. C'est vous qui co-signez l'introduction de ce cinquième numéro publié sous la direction, je le signale, de Giuliano D'Empoli, autre théoricien des prédateurs. À côté de vous, Ramona Bloge. Bonjour. Merci Bonjour. D'être avec nous, rédactrice en chef de la revue. Vous dirigez aussi, je le signale, la revue Green, consacrée à l'écologie géopolitique.
Et vous êtes les bienvenus, chers auditeurs. Évidemment, vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. Gilles Gressani, pour commencer, pourquoi parler de l'ennemi qui nous désigne et pas l'inverse? Pour comprendre, vous commencez votre livre avec une scène qui remonte à 1965 à la Sorbonne. C'est une soutenance de thèse. Le doctorant s'appelle Julien Freund. Racontez-nous.
Mais c'est une scène qui, effectivement, est très éloignée du bruit, du spectacle de Donald Trump. C'est la Sorbonne avant 68, oui. Donc c'est vraiment les rites mandarinales des soutenances de thèse. Mais il se passe quelque chose de décisif parce que ce mot est prononcé, l'ennemi nous désigne. En fait, nous sommes aujourd'hui un peu pris dans une tentation qui consisterait à dire, au fond, nous sommes pacifistes et je pense qu'il faut le rester. Et donc, nous n'allons pas nous embourber dans des histoires belliqueuses et polémiques. On va rester pacifistes. En fait, on va continuer à cultiver notre jardin et on sera tranquille. Et lors de cette scène, ce mot est prononcé qui dit, au fond, même quand on cultive son jardin, si l'ennemi a décidé de vous désigner, il continuera à vous désigner et vous empêchera de le cultiver. Et je pense que c'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec ce volume, en réunissant comme chaque année, des contributions très différentes et très disparates, c'est de poser au fond un diagnostic dans ce moment de très grande confusion, non pas une carte générale parce que c'est impossible, mais des points de repère qui permettent de rendre plus intelligible le moment dans lequel nous sommes, et aussi de permettre quelque part de comprendre que en fait, évidemment, la situation est très dure. Évidemment, tout est très complexe, mais c'est possible de s'intéresser aux idées, et c'est même nécessaire, parce que si on ne s'intéresse pas aux idées et à ce qu'ils peuvent faire, au fond, on finit par ne pas avoir d'idées, et c'est peut-être de là que vient cette espèce de sensation de perte dans laquelle nous sommes.
Mais qui est cet ennemi qui nous désigne, et qui donne votre titre à ce livre? Qui sont les prédateurs dont vous parlez, et qui sont les proies?
Je pense qu'aujourd'hui, on voit très clairement la partie spectaculaire de ce contexte. Depuis un an et demi, Donald Trump à la Maison-Blanche nous a évidemment désigné comme un adversaire structurel. Et c'est intéressant parce que c'est un renversement assez profond de la relation transatlantique. Ça nous sidère, ça nous met dans une position de très grand inconfort. On ne sait pas comment se positionner. Et pourtant, dans ce spectacle, dans cette sidération, on perd de vue peut-être aussi l'autre partie structurante de la géopolitique mondiale, l'autre moitié du ciel, l'autre moitié du monde, c'est la Chine. Et c'est là que je pense on essaye d'apporter aussi un petit déplacement. C'est le dossier central de ce volume est vraiment consacré aux doctrines du Parti communiste chinois.
Et la proie, c'est nous, c'est l'Europe ?
C'est clairement, d'un point de vue économique, c'est très évident. C'est le choc, aujourd'hui, ça passe totalement inaperçu. C'est d'ailleurs un problème démocratique, je pense, que pour nos systèmes politiques. Le fait qu'on ne parle pas assez du choc chinois sur nos économies, et ce que ça peut déterminer.
Et on va en parler, et chers auditeurs, restez, puisqu'il y a le fameux, maintenant désormais célèbre, Gilles Gressani, test des trois Chinois qu'on vous fera passer, mais on n'en dit pas plus, restez avec nous.
Ah, c'est pour vous le test.
On verra, et Florence, là, on l'a beaucoup travaillé tous les deux. Il faut qu'on parle du premier chapitre, Ramona Bloch, de cette revue, qui va dans le sens de ce que vous disiez il y a un instant, Gilles Gressani, où les auteurs expliquent ce qu'est le nouvel ordre mondial, selon eux, néo-royaliste, je vous cite, structuré autour de clans, de cliques ou de personnes de pouvoir, plutôt que de systèmes ou de règles communes. En fait, ça veut dire qu'on est passé, on est revenu quasiment à un ordre ancien, presque médiéval, quand on vous lit, où les notions de droit international, de souveraineté passent au second plan, c'est ça ?
Effectivement, il s'agit d'un article très intéressant qui ouvre le volume par deux chercheurs américains en relations internationales, Abraham Newman et Stacey Goddard, qui partent de ce constat que pour comprendre le régime Trump aujourd'hui, il faut parler de néo-royalisme, et ils parlent de ce que Trump est en train de faire. C'est rien de plus qu'un clan qui ne bénéficie pas à un intérêt suprême de la nation, mais bénéficie à un petit nombre. Et il prend une série d'exemples qui sont très évocateurs